Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. Vous êtes sur l'épisode FAQ, on sort de la saison régulière. Comme vous le savez, une semaine sur deux, on alterne FAQ et saison régulière. Mais aujourd'hui, on va répondre à une question. Et on va répondre à une question de notre ami Sylvain. Mais juste avant, on avait un appel de détresse, hein, pour ainsi dire, puisque en parlant de ces FAQ et notamment des FAQ audio qui sont laissés via encore la plateforme où on héberge nos podcasts, et j'insiste sur le mot plateforme, vous allez voir ça, son intérêt dans l'épisode du jour. Eh bien, Sacha Ronner nous a laissé un message. Alors Sacha, si tu nous écoutes, eh ben, il faudrait que tu reviennes vers nous puisque ton message est juste un silence, un long silence de 39 secondes. On est très impatients de savoir ce que tu voulais nous... quelle est la question que tu voulais nous poser ou quel retour tu voulais nous faire. Donc n'hésite pas soit à nous envoyer un mail podcast@nakan.ch ou à laisser un nouveau message audio et on se fera un plaisir de revenir vers toi, tout comme on se fait un plaisir de revenir vers tout nos auditeurs et nos auditrices. Mais un podcast de Nakan sans Monsieur Nakan ne serait pas le podcast de Nakan, donc j'accueille à mes côtés Greg Chanez. Salut Greg.
Salut Hermano, comment vas-tu?
Eh bien je vais très bien, on enregistre aujourd'hui quelques heures avant la diffusion du podcast et je ne sais pas chez toi, mais en tout cas à Luxembourg il fait super beau. J'ai la chance de travailler en remote et donc depuis ce matin, depuis 7h30 du matin, je suis sur ma terrasse, un café d'un côté, un thé de l'autre et je profite de travailler au soleil et ça c'est top.
Ouais, bah écoute, moi ici j'ai repris le vélo-taf, donc voilà, ça indique suffisamment d'éléments par rapport aux conditions météorologiques qu'on a sur la région lémanique ici en Suisse romande.
Ouais, ça fait plusieurs fois que tu parles de vélo-taf, il fallait que je le place. Tu sais que je produis aussi un podcast qui s'appelle Vélo-taf, où j'interview des acteurs ou alors des pratiquants du vélo-taf et que j'essaie d'en apprendre un petit peu plus sur justement comment est-ce que ça fonctionne le vélo-taf au quotidien. Donc il faudra peut-être qu'on en parle un de ces quatre, Greg.
Ouais, alors je sais pas si ça valait la peine de créer un podcast pour ça, parce qu'il suffit de prendre un vélo, de pédaler puis d'aller au boulot. Mais enfin, t'as sûrement plein d'autres aspects à traiter dans ton podcast et c'est vraiment avec un plaisir que je partage mes maigres expériences de vélo-taffeur, mais je sais pas si je vais pouvoir apporter grand chose.
Bon écoute, on en reparlera en off comme on a l'habitude de faire entre deux épisodes, on parle pas mal en off. Bon, revenons à l'épisode du jour. On a dit qu'on allait répondre à la question de Sylvain. Donc Sylvain, si je ne m'abuse, alias le petit lapin, mais ça c'est en privé, eh bien voici la question de notre auditeur.
Salut Greg, Hermanos et Sylvain, je voulais réagir par rapport à votre dernier épisode que vous avez enregistré sur le capteur Stride et sa comparaison avec les capteurs de puissance de Garmin. Vous avez concentré votre épisode sur la comparaison directement de ce capteur, mais je pense qu'il y a matière à ajouter sur les plateformes de ces deux marques. Je ne connais pas celle de Garmin, mais par contre la plateforme, que ce soit l'application téléphone ou même l'application en ligne de Stride, offre pas mal. Gratuitement, on peut obtenir toutes les données qui sont enregistrés par ce capteur. Et puis, il n'y a pas d'obligation, mais on peut aussi partir sur un abonnement qui est de l'ordre de 10$ ou 10€ par mois, qui permet d'avoir des analyses un peu plus poussées, justement, de chaque sortie, et aussi qui offre un accès à une bibliothèque qui est de plus en plus fournie sur des entraînements à base de puissance. Voilà, donc peut-être matière pour un prochain épisode. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour ces épisodes, c'est toujours super cool et intéressant de vous écouter. Salut, salut!
Et donc, déjà, Sylvain, merci d'avoir posé cette question. J'espère que le fait de réécouter ta voix ne t'a pas trop dérangé. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler plateforme. On a parlé de la plateforme Encore où on héberge notre podcast. Et bien là, on va parler plateforme. Et ça va être aussi l'occasion de finir un petit peu cette série, non seulement de réponses à des questions relatives à la course à pied, mais aussi à la puissance. Qu'est-ce que tout ceci t'inspire, Greg ?
Eh bien, premièrement, j'aimerais dire, Hermano, que c'est plus une interrogation globale qu'une question très précise, qu'en est-il par rapport aux plateformes d'analyse, et puis une constatation. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont disponibles dans la plateforme de Stride. On parle d'analyse et de mesure de puissance en course à pied depuis longtemps maintenant sur le podcast, et c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente au cours des dernières FAQ. On voit qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Ça intéresse, ça interpelle, ça donne envie d'essayer. Moi, je trouve ça positif parce que je pense que c'est une mesure qui peut vraiment apporter quelque chose à l'entraînement. Mais on le dit souvent, c'est une mesure qui peut apporter quelque chose à l'entraînement pour autant qu'on utilise correctement les données. Et utiliser correctement les données, premièrement, c'est de collecter des bonnes données. Donc là, on a déjà parlé des différents capteurs qui existent. Et Sylvain nous reparle de la méthode de mesure de Stride, de Garmin et d'autres. Et ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie pour faire un bon usage des données qui ont été collectées, c'est la plateforme d'analyse. Et là, on est tout à fait dans la thématique de cette question de Sylvain par rapport à ce qui est proposé par les différents acteurs du marché. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des grandes disparités entre des plateformes qui proposent beaucoup et des plateformes qui proposent presque rien du tout.
Bon, alors déjà, la première question, on l'a déjà traitée de nombreuses fois sur le podcast, mais est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel device et aussi n'importe quelle plateforme pour déjà collecter ou analyser un minimum de données relativement à la puissance en course à pied?
Alors évidemment, le conseil, c'est toujours un petit peu de coordonner la plateforme qu'on utilise par rapport à l'appareil. C'est-à-dire que pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens d'utiliser la plateforme Stride si on utilise un capteur de puissance d'une autre marque ou d'une autre technologie. Tout comme ça ne fait pas beaucoup de sens de ne faire de l'analyse des données de Stride que dans la plateforme de Garmin Connect ou dans d'autres plateformes.
D'autres plateformes, on pense à Strava, on pense à Nolio, on pense à Training Peaks. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent comme ça? Parce que vu qu'on a commencé le name dropping, autant le finir.
Alors effectivement, les plateformes tierces, donc qui sont pas liées directement au constructeur, parce que quand on achète une montre, que ce soit Coros, Suunto, Polar, Garmin ou d'autres, on a une plateforme entre guillemets de base qui est fournie avec la montre et sur lesquelles on va analyser ces données. Par contre, il y a des plateformes tierces sur lesquelles on peut centraliser des données de plusieurs marques de montres, de plusieurs types d'appareils. Et là, on a effectivement Nolio et Training Peaks qui sont, à mon sens, les leaders. Il y en a d'autres, mais qui sont plus destinés à certains types d'analyses, comme les analyses cyclistes ou d'autres analyses. Mais Nolio et Training Peaks, c'est les deux grands généralistes qu'on retrouve pour analyser et planifier ses entraînements, notamment en triathlon. Et ces plateformes-là, elles progressent largement en termes d'intégration et d'analyse de la puissance en course à pied. Les deux plateformes ont des fonctions un peu équivalentes, c'est-à-dire qu'elles permettent d'une part de planifier des entraînements structurés basés sur la puissance en course à pied, et puis d'analyser les données de base qui sont fournies. C'est toutes les données qui sont fournies en fait par les capteurs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire la puissance instantanée, la puissance moyenne, la puissance normalisée, ce genre de choses. Après, on verra que certains capteurs donnent des données un petit peu différentes. Et c'est pour ça que ça fait aussi sens d'utiliser, par exemple, la plateforme spécifique de Stride, parce qu'elle va permettre d'exploiter, en fait, toutes les capacités de ce capteur et des choses qui sont pas forcément disponibles sur d'autres capteurs ou qui sont un peu différents.
Bon, tu parles de Stride, on en a déjà aussi parlé. Il y a d'autres devices qui permettent de mesurer la puissance en course à pied. Je pense, vu qu'on parlait de Garmin, notamment à la ceinture pectorale qui permet de mesurer cette puissance. Tu vas me redonner la référence pour éviter de dire des bêtises. est-ce qu'on va avoir le même niveau de données d'analyse si on utilise cette ceinture pectorale Garmin et qu'on a effectivement un device Garmin dans la plateforme Garmin Connect ou si on utilise un Stride avec la plateforme Stride?
Alors, ce qu'il faut savoir chez Garmin, c'est un petit peu particulier parce que Garmin utilise la puissance en course à pied, mais pas en mode natif. Il faut installer des petites applications additionnelles via Connect IQ sur ces montres Garmin pour pouvoir utiliser la puissance en course à pied sur les montres de la marque. On attend, et ça devrait arriver d'après certaines rumeurs assez rapidement lors de ce printemps-été 2022, mais pour l'instant il n'y a rien, mais on attend le support natif, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on doit installer une petite app qui va être spécifique au capteur qu'on utilise. Tu l'as dit, si on utilise une ceinture pectorale HRM Tri, HRM Run ou HRM Pro, on a l'oscillation verticale et on a d'autres données qui sont fournies par cette ceinture. Et de là, Garmin peut extrapoler de la puissance pour les appareils qui ont également un altimètre barométrique intégré. Donc ça permet d'avoir une estimation de puissance via une app Connect IQ. Et puis bah là, les données de contact au sol, le temps de contact au sol, l'équilibre de contact au sol, l'oscillation verticale, etc., bah, sont intégrées puisque c'est des mesures natives des ceintures HRM Run Tri Pro. Et donc, du coup, voilà, c'est intégré. Si on utilise un capteur Stride, on utilise une autre app Connect IQ qui va mesurer d'autres paramètres du capteur Stride, mais également l'oscillation verticale, le temps de contact au sol, etc. Il faut bien comprendre que oscillation verticale, quand on la mesure sur le pied, sur la chaussure ou au niveau de la ceinture pectorale, les mesures seront un petit peu différentes. Donc on en revient à ce qu'on dit toujours sur les capteurs de puissance en course à pied. Un jour, vous en choisissez un et vous vous tenez à celui-là. Vous commencez pas à utiliser lors d'une sortie le truc de Garmin et l'autre le Stride parce que vos données ne seront pas cohérentes entre deux l'une et l'autre. Mais voilà, on a ces métriques qui sont enregistrées par ces apps Connect IQ. Qui sont propres aux capteurs.
Puis, j'imagine que ta remarque sur utiliser un capteur et un seul va être le même aussi pour la plateforme. Si vous commencez à utiliser une plateforme, de préférence, restez dessus. Ou alors, si vous changez de plateforme, ne cherchez pas soit à avoir les mêmes données, soit à avoir une continuité dans les données, puisqu'on ne va peut-être pas avoir les mêmes éléments dans Training Peaks, dans Nolio, dans la plateforme de Garmin Connect, dans la plateforme de Stride, etc.
Alors ça dépend. Si on utilise toujours un Stride avec toujours la même montre Garmin, on peut utiliser l'analyse Garmin pour voir une séance en particulier. On peut planifier ses entraînements dans Training Peaks, par exemple, et puis faire de l'analyse approfondie sur sa puissance en course à pied dans la plateforme de Stride. Vu que les données, en fait, elles seront répliquées, mais ce sera les mêmes partout. Par contre, c'est sûr que si on commence à faire du mix and match de différentes sources de sport, par exemple, je veux calculer ma charge d'entraînement pour une semaine. Je vais plutôt utiliser la plateforme où j'ai tout concentré. En général, ce sera peut-être Training Peaks dans notre cas de figure, plutôt que Garmin Connect ou Stride, parce que Stride, il n'y aura que la course à pied qui a été faite avec le capteur de puissance. Peut-être que j'ai un compteur sur le vélo d'une autre marque Garmin, etc. J'aurai peut-être pas tout dans mon Garmin Connect. Par contre, l'endroit où je centralise tout et où je mets mes données consolidées, c'est Training Peaks. Donc, c'est là que je vais pouvoir regarder ma charge. Mais pour la puissance en course à pied elle-même, la plateforme de Stride permet, par exemple, d'analyser mon évolution de ma CP par exemple, ou mon évolution de mon temps de contact au sol ou de mon form power, et puis je peux planifier mes entraînements structurés dans Training Peaks et les suivre sur Garmin Connect. Tout ça marche en symbiose, en fait.
Ok, alors justement, revenons sur les plateformes. Qu'est-ce que chacune des plateformes a comme plus ou comme moins? Non, je vais pas te demander ta recommandation. Tu ne donnes jamais de recommandation. Tu n'es pas biaisé.
Non, mais en fait, il faut bien comprendre que les plateformes des montres qui sont fournies en général, que ce soit Garmin Connect, la Suunto App, Polar Flow ou l'application de Coros, même si ces applications évoluent et qu'elles remplissent de plus en plus des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes au cours des années passées, eh bien, elles sont quand même limitées dans certains domaines de mesure. Et Garmin Connect est très bien pour analyser une séance, mais si on parle de puissance en course à pied spécifiquement, on ira beaucoup plus loin dans l'analyse sur un mois, deux mois ou une saison dans Stride, parce que Stride est vraiment axé sur la mesure de cette donnée spécifique, de tout ce que fournit le Stride. Tout le reste, il s'en fiche. Il va pas faire de la natation, il va pas faire du vélo, il va pas faire de la course à pied autre que la puissance, donc il se concentre vraiment sur ce qu'il sait faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut aller très loin dans le reporting de la puissance en course à pied sur Stride. Alors que Garmin Connect ou les autres, c'est des plateformes qui sont plus généralistes, donc qui permettent de faire plus de choses, mais moins en profondeur. Training Peaks, c'est un petit peu à la croisée des chemins. Nolio, c'est pareil. Hein. C'est capable de consolider toutes les données de toutes les applications de sport qu'on a pour les mettre en un seul endroit et les consolider et faire une analyse globale sur toutes ces données. Sur le point spécifique de la puissance en course à pied, encore une fois, ça va pas aussi loin que la plateforme de Stride. Par contre, ça permet quand même de faire plus de choses que la plateforme Garmin Connect, qui, rappelons-le, n'est pas encore compatible nativement avec la puissance en course à pied. Je peux pas faire un rapport sur une semaine d'entraînement en course à pied avec la puissance dans Garmin Connect et savoir quels ont été mes watts moyens sur ma semaine ou mes RSS ou ce genre de choses. C'est pas encore intégré. Et ça, c'est un peu fou. On est en 2022, Garmin, c'est le leader du marché, ça n'existe toujours pas.
Parce que Garmin, c'est le leader du marché GPS, mais pas puissance.
Non, mais bon, je veux dire, c'est quand même les montres qui sont le plus présentes au poignet des coureurs à pied. Et on le voit au travers des FAQ qui ont été posées au cours de ces derniers mois, ça intéresse les coureurs à pied, la puissance, mais Garmin, pour l'instant, ne s'en préoccupe en tout cas pas trop de manière publique, puisque pour l'instant il n'y a rien qui est annoncé. Comme je le disais, on attend au moment où on enregistre cet épisode la sortie de la Forerunner 955 de chez Garmin, qui devrait, d'après certaines informations glanées ici et là, intégrer un support plus natif de puissance en course à pied. On ne sait pas encore sous quelle forme.
Bon bah Garmin, si tu nous écoutes, s'il te plaît, accède aux doléances de Monsieur Nakane.
Voilà. Mais pour l'instant, vraiment, la plateforme Stride reste la grosse référence en termes d'analyse de ces données de puissance en course à pied. Et on a des mécanismes comme le calcul automatique de la puissance critique de CP, ou de sa FTP de course à pied, où on peut simplement activer la fonction de l'analyse automatique, et puis au fur et à mesure de nos entraînements de course à pied, la plateforme va calculer notre CP et la faire sans qu'on fasse des tests spécifiques au cours de sa saison. Alors, il reste recommandé de faire des tests très protocolés pour avoir des estimations précises, mais au cours de cet entraînement, on peut voir un petit peu l'évolution au fil de l'eau, et ça, c'est très intéressant, ça n'existe que chez Stride.
Il faudra que tu nous expliques rapidement comment on fait, parce que moi, je me pose la question, et j'imagine que si je me pose la question, je ne suis pas le seul.
Écoute, j'avais fait une vidéo YouTube sur le calcul automatique de puissance critique chez Stride, si nos auditeurs sont intéressés à aller plus loin dans le sujet.
Bon, bah, on mettra peut-être ça dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder justement sur cette question des plateformes, et notamment des plateformes eu égard à la puissance en course à pied?
Non, mais simplement pour compléter le message de Sylvain, c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve des plans d'entraînement et des formules payantes dans Stride Power Center pour aller encore plus loin et pouvoir analyser encore plus de choses. On a aussi des possibilités de planifier ses courses. On a tous les major marathons, par exemple. Je vais faire le marathon de New York au mois de novembre cette année, si les États-Unis veulent bien de moi pour une fois, parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est pas possible d'y aller. Mais s'ils acceptent, bah, je vais aller faire le marathon de New York. Et bah, pour ça, Stride propose, en fonction de l'historique d'entraînement, donc de son calcul automatique de CP, etc., ils connaissent le parcours de New York, le profil, et donc du coup, je peux faire une stratégie de course basée sur ma puissance, où il va me dire exactement quelles sont mes espérances que je peux avoir en temps de finish et combien de watts je dois mettre sur chaque kilomètre pour pouvoir faire la course la plus régulière possible et avoir la meilleure performance possible. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont aussi intéressantes pour un coureur à pied qui sait utiliser la puissance, qui l'utilise depuis plusieurs mois et qui veut une gestion de course la plus efficace possible. Et ça, c'est une fonctionnalité parmi d'autres qui est proposée sur la plateforme de Stride avec des plans d'entraînement, on en a parlé. Et voilà, l'abonnement qui est payant, eh bien, permet d'accéder à ce genre de données additionnelles.
Ouais, si jamais les US veulent pas de toi, tu peux toujours mettre en avant que tu ressembles un peu à Ed Sheeran et qu'ils se sont trompés d'ID, non ?
Ouais, on pourrait essayer, mais je suis pas sûr que j'arrive à remplir un stade de France, moi.
Puis il va falloir passer par la case tatou avant, mais bon, écoute, ce qui veut dire qu'il va falloir enlever la montre, mais ça, je suis pas sûr que ça marche chez toi.
Ouais, mais en fait, c'est si j'enlève la montre que ça laisse un tatou, parce qu'il y a la marque de bronzage maintenant.
Enfin, les marques, parce qu'on l'a bien compris, on en a déjà parlé dans un épisode, t'as deux montres à chaque poignet, plus les montres que tu mets au pied, donc en fait, en plus du bronzage cycliste, t'as aussi le bronzage du testeur de chez Nakane.
Bah exactement, ouais. Voilà, c'est les risques du métier.
Bon, bah écoute, je pense qu'il y a pire comme risque du métier. Merci Greg pour cet épisode, ces précisions. Petit lapin Sylvain, j'espère que ça a répondu à tes questions. Et puis, bah, encore une fois, un appel à toutes et à tous. Si vous avez la moindre question, podcast.nakane.ch. Vous avez un gros bouton avec écrit dessus « Nous contacter ». Ou alors, vous pouvez aussi laisser un message audio sur Encore. Ou alors, nous envoyer un mail podcast@nakane.ch. nakan.ch.
Exact. Bah voilà, tout est dit. Et puis on attend aussi, si vous n'avez pas de questions ou pas de choses à traiter dans une FAQ, mais que vous avez aimé tous ces épisodes, c'est aller sur Apple Podcast et puis laisser une petite évaluation du podcast, un petit commentaire. Et puis s'il y a des choses qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à les marquer. Si vous adorez, marquez-le aussi. Mettez des étoiles le plus possible, on préfère. Et puis nous, on vous retrouve dans une semaine pour un prochain épisode du podcast.
Ouais, surtout que le dernier podcast, la dernière review qui remonte, c'est à chaque fois celle de notre troll préféré, Canet 682. Donc il faudrait mettre une nouvelle revue, ce serait sympa.
Ouais, ça fait longtemps que les auditeurs ont parmi des revues, donc on ne sait pas si on les a perdus, s'ils sont toujours là, mais en mode silencieux. Donc voilà, quelques-unes de vos nouvelles nous feraient plaisir.
Bon, bah écoute Greg, je te remercie, je te souhaite une bonne journée et puis rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, hermano. Ciao.
Ciao.